5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Gérard.
Alors, une nouvelle émission d'Orion Chemin de l'Espace. Au groupe Orion, vous êtes le spécialiste de la conquête spatiale et justement cette émission a pour objectif effectivement de faire le point chaque mois sur l'actualité de la conquête spatiale et puis aussi peut-être de prévoir un petit peu ce qui va arriver. Donc que s'est-il passé au mois d'octobre et qu'est-ce qui va nous arriver au mois de novembre?
Alors un mois d'octobre excessivement riche, on peut dire, avec tous les lancements, les nouvelles des sondes interplanétaires, l'homme dans l'espace, il y a vraiment un mois qui a été d'une richesse extraordinaire. Et puis bon, ça continue puisque ce mois de novembre, nous avons de très très bonnes nouvelles pour tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes.
Alors, il y a l'ISS, il y a la Chine, il y a ExoMars, enfin, il y a plusieurs choses que l'on va évoquer. Mais tout d'abord, la Station Spatiale Internationale, l'ISS, on en parle souvent dans cette émission. Au mois d'octobre, il y a eu un retour, effectivement, voilà, de la moitié d'un équipage.
Tout à fait. Donc, comme il y a des rotations d'équipage, à peu près les missions sont de 5 mois et demi, 6 mois. Donc, ce 30 octobre, Kate Rubins, Anatoly Ivashin, Takuya Onishi. Donc, on va souvent, vous voyez, il y a des noms qui sont un petit peu difficiles à prononcer parfois, parce que nous avons des Russes, des Américains, des Japonais. La participation des puissances spatiales à cette station spatiale internationale. Et bien sûr, nous un Français.
Eh oui, parce que là, il n'y a pas beaucoup de Français, mais ça va changer.
Ça va changer.
Alors, donc, on rappelle que les équipages sont en principe de 6 personnes depuis pas mal de temps. Et donc, il y a une rotation par moitié, tous les 3 mois à peu près. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc, ce 30 octobre, ces 3 astronautes sont descendus de la station spatiale. Ils étaient partis au mois de juillet. Et arrivés à la station spatiale après 2 jours de vol, comme ça se passe actuellement. Donc, ils ont fait leur mission et sont redescendus pour laisser la place au futur équipage qui va partir le 17 novembre.
Alors, ce retour, ça se passe en général. On a maintenant une certaine pratique. Enfin, on n'est pas dans la routine parce que c'est quand même à chaque fois extraordinaire. On a l'air de banaliser effectivement ces allers-retours dans l'espace. Ça se passe comment là, le retour de...
Le vaisseau Soyouz qui les a montés était resté accroché à la station spatiale. Ouais. Une fois leur mission terminée, ils enfilent leur combinaison. Ils se mettent dans le vaisseau Soyouz. Donc, ils ferment toutes les écoutilles. Donc, il y a eu énormément de procédures qui sont répétées, re-répétées, vérifiées, ainsi que tous les incidents qui peuvent arriver. Et une fois que toutes les procédures sont faites, on décroche le vaisseau Soyouz de la station spatiale et il va plonger dans les couches denses de l'atmosphère.
Résister à des températures très folles. Et il atterrit comment ?
Il atterrit dans les steppes du Kazakhstan. Alors, il y a le décrochage. Il y a la libération simplement du module qui va descendre puisque le reste va se perdre dans l'atmosphère et donc l'ouverture de plusieurs parachutes et du parachute final qui est immense puisqu'il y a aussi, on dit de la station fin la taille d'un terrain spout, mais le parachute final à peu près cette taille aussi, circulaire, et il va se poser dans les steppes du Kazakhstan. Alors c'est toujours intéressant de voir ce retour parce que des fois il y a du vent, alors on voit ce parachute qui balance la capsule au bout avec les 3 personnes dedans. Les atterrissages se font à une arrivée relativement rapide, mais les rétrofusées se mettent en action juste à l'arrivée au sol. Ça fait un petit peu de poussière. L'atterrissage se fait bien à plat quand tout va bien, mais des fois, le vaisseau peut se coucher. Et puis, il y a toute la procédure d'ouverture pour extraire les hommes de ce vaisseau.
Et nous voilà sur le terrain des vaches. Alors Jean-Michel, on l'a vu, retour le mois dernier de 3 cosmonautes. 3 prochains cosmonautes vont partir, dont un Français, Thomas Pesquet.
Donc Thomas partira de notre planète le 17 novembre, du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, sur une fusée Soyouz, bien sûr, avec un astronaute de la NASA, Peggy Whitson, et commandant le cosmonaute Oleg Novitsky.
Un Russe.
Un Russe.
Donc France, USA, russe pour le prochain départ. Thomas Pesquet part sur une mission, on l'a déjà évoqué dans cette émission, c'est la mission Proxima, du nom d'une planète célèbre.
L'étoile donc Proxima du Centaure. Proxima du Centaure, oui. Voilà. Hein, donc il y a eu un petit concours pour faire appel au nom de sa mission. Et d'ailleurs, c'est un jeune du sud-ouest en France qui a gagné ce concours puisqu'il avait trouvé cette mission Proxima.
Alors, Proxima, c'est une série d'expériences, enfin plusieurs expériences. Qu'est-ce que l'on trouve comme domaine d'expérience que va mener Thomas Pesquet ?
Alors, la science est une partie importante de sa mission. Thomas effectuera un large éventail d'expériences dans la station. Donc, la station qui est un avant-poste de recherche hors de ce monde et qui sert de tremplin pour l'exploration humaine. Donc, il y aura énormément d'expériences scientifiques. Donc, si vous voulez, je peux vous en détailler quelques-unes. Donc, ce qu'on appelle le GRIP, la précision des gestes en micro-pesanteur. Donc, la micro-pesanteur sur le système nerveux.
Alors, on est un peu dans le médical aussi.
On est dans le médical. Oui. Alors, il y a le GRASP, G-R-A-S-P, c'est les réflexes et la perte des repères spatiaux. On a énergie, la dépense énergétique des astronautes. Donc la question centrale sur Repose Énergie, c'est cette dépense énergétique, de voir un petit peu comment dans les vols spatiaux, comment on a besoin de s'alimenter, comment on dépense son énergie. Donc c'est la gestion des calories.
Alors, ces expériences, elles sont au profit de la communauté scientifique. Elles sont partagées, les résultats sont partagés avec notamment tous les États qui participent, ou bien ce sont des programmes français qui alimentent une réflexion, une science, une recherche plutôt française.
Alors, on va dire qu'il y a les deux, mais c'est surtout la plus grande partie est partagée. Puisque bon, tout ça, ça se fait en collaboration avec les gens qui sont à l'écoute de la station, donc notamment la NASA, les Russes, et puis bien sûr l'ESA à Cologne, donc le centre de formation des astronautes, qui enregistre un petit peu tout de la vie des astronautes qui sont là-haut en micro-pesanteur.
Cologne, c'est une sorte de centre nerveux.
C'est le centre de formation des astronautes.
Voilà.
Donc on va retrouver Cologne pour l'ESA, on va retrouver Houston
pour les États-Unis,
la Cité des étoiles à Moscou, et bien d'autres, voilà quelques-uns parce qu'il y en a bien d'autres. Et d'ailleurs, Thomas Pesquet est parti le 1er novembre à Baïkonour, donc vous voyez, pas de jour férié pour lui, puisque après avoir fait l'Amérique, l'Allemagne, et il est parti au Kazakhstan.
Thomas Pesquet, dans la Station Spatiale Internationale, sur la mission Proxima, un certain nombre d'expériences scientifiques, médicales, et j'ai noté aussi des expériences sur l'horloge. Alors, on pourrait même dire les horloges, l'horloge astronomique et l'horloge biologique. Alors.
Donc, c'est Circadian Rhythms. Alors, la connaissance de notre horloge biologique, donc, qui est basée sur l'alternance jour et nuit, donc elle est perturbée par l'évolution des cycles de vie. Donc aujourd'hui, nous on est bien conscients en astronomie que la génération de l'éclairage fausse les rapports du corps à la lumière du jour. Et Thomas Pesquet va participer à cette étude-là, une opportunité d'observer les rythmes circadiens. Donc l'horloge biologique de Thomas Pesquet sera donc observée à travers des mesures de température et de mélatonine.
Alors bon, le petit prince doit se réjouir parce que en fait sa petite planète qui tournait très 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 vite le jour et la nuit. En fait Thomas Pesquet va finalement travailler sur cette question du cycle du sommeil, du jour-nuit.
Il va être surveillé. Donc alors comment on est surveillé quand on est aussi loin de la Terre, enfin aussi loin à 400 km au-dessus de nos têtes, mais bon, il y a la rotation autour de notre planète hein, en 1h32 minutes. Donc tout ça, il y a des capteurs donc qui analysent en permanence et les données sont renvoyées au sol, donc à travers les différentes antennes de réception placées autour de la planète et bien sûr recentralisées dans tous les centres d'écoute de la station.
Donc l'horloge biologique, la nuit, la lumière, on a vu effectivement un petit clin d'œil quand même sur les problèmes de pollution lumineuse.
Tout à fait.
Hein, qui réduisent de plus en plus la part de la nuit et qui peuvent perturber beaucoup de, enfin qui perturbent beaucoup de d'espèces dans la biodiversité, dont l'homme bien entendu. Donc voilà, horloge biologique, Thomas Pesquet travaille pour nous sur ce sujet-là. Et il y a aussi cette horloge astronomique.
Atomique, donc Faroe.
Atomique, pardon.
Donc cette horloge qui essaye donc de caler, on va dire, au milliardième de seconde. Je crois qu'on va travailler au milliardième de seconde donc, sur cette horloge pour avoir les données les plus précises sur la mesure du temps.
Donc c'est l'horloge parlante du 21e siècle.
Oui, voilà.
Donc Thomas Pesquet va partir donc le 17 novembre pour 6 mois environ. Le retour est prévu et fixé.
Oui, la date pas tout à fait parce que bon l'émission comme on l'a dit tout à l'heure c'est 5 mois et demi, 6 mois, mais il peut y avoir des fois du décalage dû à certains événements, notamment bon il y a un Soyouz qui a été décalé on va dire d'un peu plus d'un mois parce qu'il y a eu des problèmes techniques. Donc on ne prend pas de risque pour lancer des hommes dans l'espace. S'il y a un problème technique, ben ceux qui sont dans l'espace restent un petit peu plus longtemps. Alors ça décale des fois le prochain départ, donc ça peut décaler aussi les prochains retours. Donc tout ça, il y a une mission théorique, des dates théoriques. Mais vous voyez, Thomas Pesquet, déjà, on l'a retardé 2 jours. C'était prévu le 15, c'est prévu le 17.
Donc, retour en mai 2017.
Voilà,
on vous tiendra au courant de toute manière.
On verra, oui, on aura l'occasion de reparler dans ces émissions donc, de sa mission.
Alors, cette station spatiale, enfin, le programme de la station spatiale a été également prolongé, on le rappelle, puisque c'était dans le courant de l'année, je crois, qu'il y a eu une décision du Conseil européen, c'est ça ?
Alors, l'Europe, la NASA, l'agence Roscosmos qui représente les Russes, bon, puis tous les participants comme l'agence spatiale japonaise. Donc on poursuit la station et on s'est mis d'accord pour aller jusqu'en 2024.
Voilà.
Donc ça nous laisse encore un petit peu de temps. Hein. Ce sont simplement des questions de financement. Donc que va-t-il se passer en 2024 ? Eh bien, on pourrait dire qu'aujourd'hui, eux-mêmes ne le savent pas.
Tous les cas, il y en a qui se préparent peut-être à rouler tout seul.
Alors effectivement, donc la Russie envisage de lancer en 2017-2018 des petits modules. Donc, comme la station chinoise, hein, donc pour à ce moment-là, en 2024, avoir une station autonome à eux, donc la décrocher de la station spatiale ISS et d'avoir leur petite station en orbite. En attendant de voir ce qu'on fera de l'ISS.
Donc en fait, tous les modules, les éléments russes, enfin soviétiques, russes, qui sont accrochés aujourd'hui, j'allais dire, au bras commun, en fait.
Alors le bras commun, c'est une grande poutre, une poutre qui fait 109,50 m, qu'on appelle le truss. Hein,
voilà. Et donc il serait détaché et, il constituerait un autre ensemble.
Alors si vous voulez, tout ça du côté russe sur la station, il y a le module Zarya, Zvezda, puis il y a tous les ports d'accroche, donc des Soyouz, hein, et là-dessus, donc, on rajouterait ce futur modèle, et ce futur modèle qui se décacherait de la station, lui.
Donc, les Russes sont en train effectivement de préparer l'avenir d'une certaine manière, mais il y a aussi la Chine.
Alors la Chine, La Chine, c'est Tiangong 2. Alors, on va dire que ce n'est pas vraiment une station spatiale, car il est en fait constitué uniquement de deux modules. Un module de service qui accueille les systèmes de propulsion d'alimentation et un module orbital de vie pour l'équipage avec les recherches scientifiques, donc un module habitable qui fait 15 mètres cubes.
Donc, Tiangong 2 est déjà en place depuis un certain temps.
Oui.
Et il est également habité.
Il est habité par deux Chinois actuellement, hein, qui sont là, deux taïkonautes, puisqu'on les appelle comme ça. C'est Jin Eipeng et Shen Dong.
Donc ces deux taïkonautes roulent évidemment pour leur pays, la Chine, mais j'ai noté aussi qu'ils menaient un certain nombre d'expériences, en particulier pour la France ou en tout cas pour l'Europe. Une expérience par exemple avec le CNRS CardioSpace.
Alors avec le CNES. CardioSpace, c'est une étude dont Thomas Pesquet avait travaillé un petit peu là-dessus et donc qui est un peu sur les rythmes cardiaques. Hein. Alors vous voyez qu'il y a aussi des études dans l'ISS, mais il y a des études dans Tiangong 2.
D'accord, et puis une certaine collaboration.
Enfin, une collaboration, donc, avec les différentes puissances spatiales, parce que même si on lance, on va dire, chacun de son côté, il y a des espaces de collaboration qui sont importants.
Voilà, ça ne remet pas en cause, j'allais dire, une certaine harmonie dans la communauté scientifique, pardon. Par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui suivent en Chine ce qui se passe dans Tiangong 2? Est-ce qu'il y a des Chinois qui sont à Kourou?
On va dire qu'il n'y a pas de Chinois qui se préparent à partir à Kourou hein, pour l'instant.
Non, mais voilà. Je veux dire, ils connaissent, ils sont au courant, ils sont impliqués dans les programmes.
Il y a des échanges, il y a des rencontres. Alors après, les implications, donc il y a les astronautes qui se rencontrent, les astronautes, les taïkonautes, les cosmonautes. Et puis, bien sûr, il y a toute la communauté scientifique qui, lors de colloques, de rencontres, participe sur des programmes. Et notamment, c'est sur une rencontre que le CNES a mis en place cette expérience CardioSpace. Alors là-haut, on va dire que c'est un petit peu la routine. Et puis donc ces deux astronautes sont là-haut pour une mission de 30 jours. Voyez, donc c'est relativement court.
30 jours. J'ai noté aussi une expérience un petit peu folklorique, mais enfin originale en tout cas. On parle de verre à soie.
Tout à fait. Actuellement, dans la station Tiangong, donc, vous voyez, sur cette mission courte, donc les Chinois ont monté des verres à soie et on va voir un petit peu comment les cocons de verre à soie comment sont tissés en espace.
C'est le comportement.
En micro-pesanteur, voilà. Donc vous voyez, alors ces expériences-là, on n'en parle pas souvent, mais si vous voulez, moi je me souviens que les Russes avaient monter des tritons, des salamandres, des escargots. Vous voyez, il se passe plein de choses au-dessus de nos têtes.
Voilà, et on attend beaucoup de choses sur la création, soit des toiles d'araignée, soit des cocons,
tout
etc.
Tout à fait, parce qu'après,
dans les trois dimensions,
on a parlé
dans le vide,
on a parlé du rythme de l'homme en micro-pesanteur, hein, mais bien sûr, il y a l'homme et l'animal, et ça participe à la recherche.
Donc Jean-Michel, vous nous précisez que ces deux taïkonautes ont une mission de 30 jours. Il est prévu qu'ils soient remplacés?
Pas pour l'instant, puisque cette station va essayer d'être améliorée hein, par la Chine, puisque la Chine vient de développer un nouveau lanceur, qui est sur une île. Hein, le centre de lancement, c'est Wenchang. Alors je ne me souviens plus du nom de l'île, mais donc vous voyez que les Chinois aussi essayent dans les retombées, que ça ne retombe pas sur la Terre. Plutôt sur mer, c'est plus sécurisant. Donc, un nouveau lanceur, donc une longue marche, hein, c'est toujours ces fusées longue marche. Donc, c'est la longue marche 5. Hein.
Donc la longue marche, un mot quand même sur ce lanceur, c'est un lanceur de charge lourde.
800 tonnes, donc, 5 mètres de diamètre.
La concurrence, par exemple, avec les lanceurs actuels.
Avec Ariane 5, voilà, avec les fusées Atlas américaines, les Protons soviétiques, donc, voilà. etc. Donc, la Chine prévoit de l'utiliser dès 2018 pour lancer les éléments de sa station spatiale.
D'accord. Alors, des nouvelles dans l'espace aussi, ça en touche un petit peu à l'actualité. Enfin, un dossier, en tout cas, qui est un petit peu surprenant, en tout cas, c'est la collaboration en cours de l'ESA avec la Bibliothèque du Vatican.
Ah, donc ça, c'est un sujet qui est intéressant, puisque ça s'est passé le 4 novembre. Alors, si vous voulez, l'ESA et le Vatican unissent leurs forces pour enregistrer des données dans l'ère du numérique. Donc, on sait que la Bibliothèque du Vatican est excessivement riche au niveau d'ouvrages anciens.
D'ouvrages anciens,
dont le plus ancien a 1800 ans. Alors, effectivement, c'était avant l'écriture. Hein, donc, on parle souvent de codex, oui. De ces parchemins-là. Alors, la mission, donc, c'est utiliser, donc, si vous voulez, une image numérique FITS, FITS. Hein, donc, il y a un logiciel qui va calculer l'épaisseur du parchemin pour arriver à remettre à plat toute cette écriture et pour avoir conserver tout ça sur des données numériques.
Donc là, on est finalement dans un programme de numérisation de l'existant. Est-ce que ce sont des livres, j'allais dire, qui touchent plus particulièrement la science ou la connaissance scientifique?
C'est l'ensemble des livres.
C'est l'ensemble.
Voilà, hein. C'est la Bibliothèque apostolique du Vatican, hein, on va dire.
Alors pourquoi est-ce l'ESA qui est sollicité sur une...
Eh bien, grâce à ce logiciel qui a été mis au point.
D'accord.
D'ailleurs, il y a très longtemps, ce logiciel a été mis au point dans les années 70 par la NASA.
D'accord.
Donc bien sûr, il a progressé au rythme de l'informatique qu'on connaît aujourd'hui. Donc, et ça, c'est un outil excessivement précis et important, donc qui va permettre de mettre en mémoire ces livres, parce que qu'on s'est aperçu qu'avec les tremblements de terre en Italie, on pouvait perdre de la mémoire. Donc, on essaye de garder cette mémoire sous forme numérique.
Voilà, l'espace, l'histoire et la
mémoire. C'est l'espace, c'est les A, voilà.
Deuxième info sur les nouvelles de l'espace, la mission Juno, Jean-Michel. Parce
que Juno, c'est sur Jupiter. Hein. Donc, cette sonde qui a été lancée par la NASA s'est mise en orbite autour de Jupiter. Donc, elle va essayer de voir un peu tout ce qui se passe sur cette planète, qu'on connaît un petit peu, mais avec une mission beaucoup plus équipée au niveau informatique, caméra, spectromètre, etc. Donc, on va permettre d'étudier Jupiter et les lunes de Jupiter.
D'accord. Donc là, on est vraiment sur dans une expérience qui est déjà en place.
Et arrivé au mois de juillet dernier, donc vous voyez, c'est tout récent. Donc, on commence à voir les premières images.
Et donc, l'objectif, c'est de rapprocher le plus possible, effectivement, cette sonde pour prendre des photos de plus en plus.
Photos et recueil de données.
Voilà. Alors, autre sonde, c'est la sonde New Horizon, dont on a déjà parlé, bien sûr.
Alors, New Horizon, donc, qui est partie maintenant il y a 11 ou 12 ans, hein, donc, qui a mis un long voyage pour arriver vers cette mini-planète Pluton, parce qu'on précise que Pluton a été déclassé des planètes du système solaire. Mmh. C'est une mini-planète. Donc, elle a permis donc, de recueillir de nombre de données. Vous voyez, donc, on était l'année dernière, au mois de juillet. Donc, vous voyez qu'il faut un petit peu plus d'un an avant qu'on enregistre ces données, qu'on les dépouille et qu'on puisse, bien sûr, les mettre à la portée du grand public, la communauté scientifique bien sûr, mais du public. Alors ça nous a révélé un petit peu cette complexité de Pluton et de ses satellites, et bien au-delà de ce qui était attendu.
Voilà, et cette sonde continue et elle va effectivement à la rencontre d'un astéroïde.
Alors, en janvier 2019, donc un astéroïde à la limite de la ceinture de Kuiper.
Qui est donc
à la limite du système solaire,
voilà. Voilà. Donc, une autre information, un peu, peut-être rapidement quand même, mais c'est ExoMars et puis son fidèle Schiaparelli qui s'est un peu scratché sur Mars.
Voilà. Alors, donc, au fur et à mesure qu'on progresse, donc, on s'aperçoit de ce qui s'est passé. Hein, on dépouille les données. Alors, aujourd'hui, l'ESA communique en disant un problème logiciel comme cause possible du crash. Vous voyez, donc l'informatique est présente, mais bon, il faut dans la préparation, dans la gestion des programmes, il faut être très précis. Donc, pas faire comme c'est arrivé aux Américains qui avaient confondu les miles et les kilomètres, hein, il y a quelques années. Mais vous voyez qu'une bêtise, voire une grosse bêtise, peut avoir de grosses conséquences.
Ouais, on rappelle quand même que cette mission était quand même une mission préparatoire à d'autres missions plus importantes, on va dire, et que cet échec reste quand même formateur. Même échec, ça reste quand même très important.
Alors, Alors, il y a eu une communication de l'ESAC direct, c'était quand même réussi à 96%.
Bon, bah
donc,
voilà.
Alors, même si c'est 94, c'est pas grave, je crois, parce qu'on a 15 jours la sonde qui est en orbite autour de la planète, donc on aura encore de belles infos sur notre planète rouge.
Alors, Jean-Michel, voilà, on passe rapidement un peu cette actualité, on voit qu'elle est riche, qu'elle a été riche
en
octobre.
Elle est riche, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur ce mois d'octobre.
Voilà, novembre s'annonce aussi tout aussi riche. Simplement pour terminer, on rappelle quand même le site du groupe Orion sur lequel vous pouvez trouver un certain nombre d'informations.
Alors notre site Orion, il a un petit peu en travail actuellement.
Voilà, parce qu'on est en train de se moderniser.
De se moderniser, ouais, de s'adapter donc aux nouvelles technologies, smartphones, tablettes, tout ça. Donc, mais on arrive à communiquer donc quelques infos et vous trouvez surtout les liens qui vont vous permettre de rejoindre soit l'ESA, soit la Cité de l'Espace, où on a de nombreuses informations sur tout ce qui se passe dans le spatial.
Finalement, c'est le rendez-vous le plus opérationnel que l'on peut proposer à nos auditeurs. Et le site, c'est
www.orion43.fr.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci Jean-Michel. Et puis, on espère vous retrouver bientôt à l'antenne et puis sur notre site et pourquoi pas dans notre observatoire du BETS à Saint-Julien-Chapteuil.
Voilà. Rendez-vous le mois prochain.
À bientôt.
4, 3, 2, 1. Top. Allumage Vulcain. Décollage.